OK, bonjour tout le monde. Bienvenue au conseil du 8 décembre 2025. Merci d'être là. C'est le fun de voir un grand nombre de citoyens. C'est toujours le fun. Je vais ouvrir la séance parce qu'on a le quorum évidemment ici. Donc, à 18h30, je vais ouvrir la séance du conseil. Petit message aussi, si vous êtes intéressé, une fois qu'on va avoir terminé le conseil de façon officielle, on va se rendre disponible après de manière informelle, si vous voulez jaser de tout, de rien, de faire connaissance. Donc, on prendra 15-20 minutes après, si ça vous intéresse, de discuter un peu plus informellement. Adoption de l'ordre du jour. Le conseil procède à l'adoption de l'ordre du jour du 8 décembre. Est-ce que tu veux mettre l'ordre du jour, François?
Oui.
On est rendu là. En conséquence, l'adoption est proposée par le conseiller
Véronique.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que quelqu'un demande un vote? Non? Parfait, adopté à l'unanimité. Période des questions spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour? Vous savez que l'ordre du jour est aussi publié avant la rencontre pour vous faciliter. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions au préalable. Vous pouvez même nous envoyer des questions avant la journée. Fait que ça nous permettra aussi d'avoir plus de réponses, plus de détails au besoin. OK, donc adoption à 1.4, adoption du procès-verbal du 17 novembre 2025. Sur la proposition du conseiller,
je propose Karine,
il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 17 novembre 2025, tel que rédigé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je regarde, non. Parfait, donc adopté à l'unanimité. Et pour ceux qui sont habitués de venir au Conseil, on a changé un petit peu la formule. Il n'y a plus de proposeur secondaire. On améliore tranquillement la façon de procéder en modernisant un petit peu là, les formules d'usage pour les procès-verbaux du Conseil. Donc, modification de la résolution 1.5, modification de la résolution 2024-098, le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026, je pense qu'il faudrait aller.
25. Oui, parce que c'est l'adoption du budget qui aurait dû être le 18 décembre, donc c'est en janvier 26,
merci.
Mais c'est pour le calendrier 25.
Merci. Donc, il est résolu que le Conseil ait adopté une résolution modifiant le calendrier des séances ordinaires en 2025, étant donné que les élections ont lieu le 2 novembre, la séance extraordinaire du budget pour les exercices financiers 2026, prévue en décembre, est reportée au 26 janvier. 2026, à la même heure et au même lieu, que toutes les séances soient 19h. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette modification-là? Non plus. Donc, adopté à l'unanimité, ça veut tout simplement dire que la rencontre du budget, c'est le 26 janvier. Ceux qui s'intéressent, donc, soyez présents. Correspondance et dépôt. François.
Excusez. Oui, nous avons reçu le rapport de Tetra Tech, le plan directeur pour toutes les infrastructures qui devront être réparées éventuellement là, dans le programme de la Tech. Donc, c'est un projet, là, on a fait beaucoup de travaux pour des dernières années, vous savez, il en reste encore. Et c'est ce plan de travail-là qui est présenté aux affaires municipales pour avoir les autorisations requises pour les subventions. Donc, on est en train de l'analyser. Ce n'est pas complété encore.
Merci. Donc, au niveau finance, point 3, 3.1, adoption des comptes à payer et à recevoir. Comptes à payer à 3.1.1. Considérant que les comptes à payer au 8 décembre 2025 totalisent un montant de 124 885,32 et pour les salaires de 12 667,95. Considérant que chacun des conseillers a reçu une copie de la liste des comptes fournisseurs, les factures payées par paiement électronique et les chèques émis sans résolution, sur la proposition du conseiller
Thibault,
merci, il est résolu que la liste des comptes à payer soit acceptée, que soit autorisé le paiement des comptes fournisseurs au 8 décembre 2025, et ce, selon les échéances prescrites. Est-ce que quelqu'un demande quoi sur cette résolution? Non, donc adopté à l'unanimité. Pour les comptes à recevoir 3.1.2, M. François Morneau, directeur général, dépose la liste des taxes à recevoir au 8 décembre 2025, qui totalise un montant de 55 520 et 3 sous. C'est tout, on dépose. Merci. 3.2, autorisation signataire pour les chèques et effets bancaires. Considérant qu'il y a eu des modifications, considérant qu'il y a lieu de modifier les signataires pour les chèques et effets bancaires à la Caisse des Jardins, sur la proposition du conseiller.
Donc, moi, France.
Merci, France. Il est résolu que M. Alexandre Pelletier, maire, soit ajouté comme signataire pour les chèques et les effets bancaires de la municipalité, en remplacement de M. Guy Rochette. Que Mme Véronique Bélanger, conseillère et mairesse suppléante, en remplacement d'Alexandre Morin. Que la présente résolution remplace la résolution 2017-136. Donc, est-ce que j'ai des gens qui veulent voter? Ceux qui demandent le vote sur cette résolution-là. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, gestion de compte et carte Visa Desjardins. Sur la proposition du conseiller, conseillère.
Oui, j'avais proposé Véronique.
Merci. Il est résolu que Ville de Lac-de-Lage délègue à M. François Morneau, directeur général, et M. Alexandre Petit, maire, en remplacement de M. Guy Rochette, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes Visa Desjardins, les cartes, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec là où les limites de crédit octroyées par la Fédération des Caisses Populaires Desjardins, les Caisses Desjardins du Québec, pardon, que la Ville de Lac-de-Lage soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toute autre dette reliée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant la somme pouvant excéder là où les limites de crédit applicables, ainsi que les intérêts et les frais applicables, que la Ville de Lac-de-Lage s'engage à utiliser les cartes selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération, les accompagnant, et à assumer l'entière responsabilité des dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités. S'achève que M. François Morneau, directeur général, et M. Alexandre Pelletier-Maire soient autorisés à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration des limites de crédit et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et utilisation du compte relatif à ces cartes. Et que M. François Morneau, directeur général de M. Alexandre Pelletier-Maire, puisse désigner à la Fédération des personnes responsables d'assumer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants d'entreprises autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes de cas échéant. Et que la Fédération des caisses des Jardins du Québec puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de modification de son abrogation. Donc, c'est résolu. Est-ce que quelqu'un demande un vote? Non, alors adopté à l'unanimité. 4. Nous n'avons aucun point en direction générale. Le point 5, travaux publics 5.1, je vais passer la parole à Alexandre Morin.
Oui, donc le point 5.1, programme de travaux version numéro 1, taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales. Je propose, Alexandre Morin, et il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à assumer seule la responsabilité à exonérer le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que les ministres, les hauts fonctionnaires, leur personnel, leurs mandataires de toute responsabilité relative aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux frais de toutes sortes résultant d'une blessure subie par une personne, d'un décès, de dommages matériels ou de la disparition de biens attribuables à un acte délibéré ou à une négligence, et ce, que ces événements soient directement ou indirectement liés aux investissements effectués grâce à l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC. Donc, ils nous donnent du cash, mais on ne peut pas les poursuivre s'il arrive de quoi avec cet argent-là. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 1 ci-jointe et que tous les documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été conférée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts admissibles.
Donc...
Oui, si vous permettez, là, ça fait le lien avec ce que je viens de vous dire sur le plan d'intervention que nous avons reçu de la firme Tetratec. Il faut savoir que cet été, là, il y a eu beaucoup d'expertises de fait. On a passé des caméras dans les conduites. On a évalué le taux de fissuration des chaussées. On a regardé l'état des ponceaux, des conduites. Bref, c'est un exercice quand même important. Et ce qui permet de lorsqu'on dépose ça au ministère des Affaires municipales, de faire approuver notre programmation. Et c'est dans ce contexte-là que ce texte-là s'ajoute. En voulant dire, ouais, on a pris note que, comme disait Alex, qu'on pourrait pas poursuivre pour des dommages corporels suite aux travaux, mais dans le fond, c'est pour enligner des choses. Donc, vous voyez, c'est cohérent, là. On est carrément dans cette optique-là. Et les travaux, on pensait peut-être pouvoir les amorcer dès l'été prochain, mais on va voir, là, en fonction des disponibilités budgétaires et autres, là, parce que c'est des règlements d'emprunt qui sont remboursés sur du très, très long terme. Donc, il faut faire cet exercice-là avant de s'amorcer. Mais il y a des urgences. Il y a des ponceaux bouchés. On a découvert par les analyses qu'il y a des ponceaux qui sont bouchés sur nos réseaux, qu'il y a des conduites qui sont affligées de racines, entre autres. Donc, il va falloir faire des alésages et du gainage. C'est-à-dire que plutôt que de remplacer les conduites, on passe un petit robot qui vient couper les racines et on passe une gaine. C'est plus qu'une gaine 24 heures, c'est une gaine qui vient enrober le tuyau pour garantir un meilleur scellement à long terme. Donc, il y a des travaux d'urgence, puis il y a des travaux de remplacement qui vont se faire d'ici 5 ans. On a 5 ans pour les faire.
Merci, bon. François. En 5.2, beaucoup plus excitant, achat d'un tracteur multifonctionnel.
Je te passe au vote.
Oui, est-ce que quelqu'un veut le vote sur... Moi, c'est le vote, non? Merci.
On veut
recevoir effectivement, on veut cette aide-là. C'est bon, vas-y.
Maintenant, comme j'ai mentionné, achat d'un tracteur multifonctionnel. Donc, un peu pour faire un petit peu une mise en contexte, on a décidé, ça fait quand même un bout de temps là, qu'on réfléchit à faire cet investissement-là là, d'un nouveau tracteur pour différentes raisons. Bien, premièrement, pour permettre de réaliser en régie plusieurs des travaux qu'on donnait en sous-traitance à des entrepreneurs, ce qui fait que ça nous permet d'embaucher une troisième personne, mais en générant plus d'emplois au sein de la municipalité avec des tâches qu'on donnait à l'externe. Et puis la logique derrière tout ça, d'engager une troisième personne aux travaux publics, bien, c'est pour permettre... nous donner un peu de souplesse et être moins exposé au fait que, vous le savez, nos employés aux travaux publics sont de garde à tour de rôle. Et puis, en étant seulement deux, sont de garde une semaine sur deux, incluant la fin de semaine. Donc, grosso modo, ils travaillent 12 jours pour avoir deux journées de congé, puis ça leur tour revient très rapidement. Et puis, pour eux, ben, c'est quand même taxant, mais pour la municipalité aussi, ça nous met un petit peu à risque. Donc, depuis un bout de temps, on avait commencé à réfléchir à comment éviter de se mettre à risque puis permettre à nos employés d'avoir un rythme de vie qui est plus humain et soutenable. Donc, on avait identifié là, la possibilité d'engager une personne supplémentaire aux travaux publics. Mais pour justifier ça, on s'est dit que ça serait bien d'avoir plus de travail aux travaux publics. Donc, en investissant dans une nouvelle machine, on se dégage, en fait, on se donne la capacité de réaliser nous-mêmes certains travaux, comme vous voyez ici, du déneigement, donc probablement l'élargissement des rues qu'on donnait à contrat à une firme, ainsi que tout le déneigement autour de l'hôtel de ville qui était fait par un entrepreneur. Également le balai qui ramasse le sable au printemps, qu'on fait passer Souvent, on mettait en fin de cycle, étant donné qu'on est un petit mandat pour eux, ils nous mettaient loin dans leur cédule. Là, on va pouvoir plus le faire au moment qui nous convient. On va avoir une déchiqueteuse pour les branches qui va probablement être utilisée par nous, mais vous savez où on avait notre dépôt à branches, on prévoit plutôt de les déchiqueter. Maintenant, on va voir si on peut le mettre à disposition des gens, on va réfléchir à ça. Et puis également une tondeuse pour faire les fossés, comme on voit là, le broyeur déporté. Donc, tout plein de tâches là, que nos employés vont pouvoir réaliser eux-mêmes et qu'on donnait à des sous-traitants. Je vais lire la résolution, mais François il a aussi fait une analyse là, financière sur l'amortissement là, de la machine en tant que telle. Puis Louis-Philippe est vraiment très excité là, d'avoir un nouveau tracteur pour travailler.
En fait, si vous voulez, puis je vais laisser Alexandre compléter là, sur l'aspect financier. Les déchiqueteurs, c'est aussi pour les feuilles, les branches importantes, mais les feuilles. Vous savez, quand on broie des feuilles, on réduit le volume de 60 %. Puis on a commencé à faire un compost communautaire à côté de la station d'épuration des eaux usées, ce qui nous permet de ramasser, de traiter les lixiviats de ce compost-là. Donc, le compost, en un été, on est capable de recycler les feuilles, de s'en resservir. On a fait une expérience l'année dernière et dès la fin de l'été, on pouvait déjà se servir de ce compost-là pour restaurer certains abords de route et autres. Et ça va devenir un compost éventuellement communautaire. Les gens pourront venir s'en servir. Donc, le déchiqueteur que vous voyez là, il y a un petit convoyeur. On est capable de mettre autant les sacs de feuilles qui déchiquent que tu jettes le sac plutôt de tout emmener ça là-bas. Et puis des branches. Parce que le tas de branches qu'on avait à libérer, là, il y a des fournisseurs qui nous chargeaient 15 000 $ pour se débarrasser des branches. Donc, là, on va pouvoir le faire en continu, c'est-à-dire peut-être on va réserver des plages horaires dans la semaine, l'été, et c'est sans voiture appel, et on va pouvoir les déchiqueter puis aller les porter directement chez un fournisseur qui va les accueillir gratuitement, gracieusement. Donc, il y a des gains importants à faire avec cet outil.
Donc, sans plus attendre, la résolution.
Je vais peut-être parler de l'aspect financier, juste rapidement. Juste pour vous montrer, on a fait une analyse financière, évidemment, de cette transaction-là. Et pour nous, c'est vraiment un point de vue d'investissement qu'on fait pour la ville à long terme. Ici, au total, dans le fond, il y a deux achats qui vont se faire de manière séparée. Premièrement, il y a un tracteur, proprement dit, qui va coûter 128 300 $ et les équipements qui vont coûter des équipements complémentaires qui vont coûter 83 500. Ça, c'est les deux investissements qu'on va faire. De la façon qu'on va financer ça, ça va se faire avec, premièrement, un prêt achat, un financement achat qui est offert par le vendeur de tracteurs, ça de même. Donc, sur 5 ans, et on a un résiduel à la fin là, de 39 000 qui va être absorbé. Même chose pour les équipements, ça, on va le faire atteindre le fonds de roulement qu'on a pour les équipements. Puis, pour faire du coup sur ce que Alexandre mentionnait, c'est que évidemment, on va enlever beaucoup de coûts qu'on faisait en sous-traitance. Là, les couleurs sont peut-être pas si claires que ça sur le projecteur, mais la ligne qui monte beaucoup, ça, c'est ce que ça coûte si on regarde les fournisseurs. Puis, on a fait une hypothèse d'une croissance des coûts de 10 % par année. Juste pour vous donner une idée, dans les 5 dernières années, la moyenne de croissance, c'est 20 % annuel de nos fournisseurs externes. Donc, vous le savez, là, tout coûte plus cher partout. Mais de tous nos fournisseurs, on est en moyenne à 20 % là, dans ce qui a fait. Donc, on va garder ça à l'interne. Puis, on a été conservateur dans notre modèle. Et puis, ce que vous voyez aussi en bleu, bien, ça, c'est les coûts que nous, on va payer. Donc, à partir de 2028, donc dans 2 ans essentiellement budgétaires, on va être rentable sur une base de fonds de roulement là, avec cet investissement-là. La petite pointe que vous voyez en 2031, bien, c'est le résiduel qu'on va payer à ce moment-là. C'est une charge d'un an. Puis le reste, ben, vous voyez qu'on est nettement efficace sur l'aspect financier là, pour ce type de décision-là. Et puis ça va réduire le temps supplémentaire aussi. Là, il y a des questions, je ne sais pas dans le protocole, comme c'est mon. Mais est-ce que je peux la prendre maintenant la question, puis après ça.
Je voulais juste vous demander, est-ce que le coût de la nouvelle personne, le salaire,
Le coût n'est pas calculé. Là, ici, on parle uniquement du coût d'achat de l'équipement. Puis la raison pour laquelle on n'a pas calculé le coût actuellement, c'est qu'on est déjà, là, je vais faire des approximations, là, mais on avait quand même historiquement 2 employés temps plein, plus entre 1/2 et 3/4 d'un employé qui venait l'été puis qui comblait le travail. Donc, le différentiel, si on a trois personnes à temps plein, on parle d'à peu près un quart d'employés. Mais là, je vous dis, c'est des chiffres arrondis. Là. Puis, on sait que pertinemment que ça va avoir une réduction sur le nombre d'heures supplémentaires, parce que, comme on l'a expliqué, c'est arrivé l'hiver passé, mais à un moment donné, il y avait une seule personne qui était disponible pour faire le déneigement. Donc, ça l'a accumulé, ça a généré une accumulation de temps supplémentaire. Fait qu'il y a des gains, puis l'efficacité, ben de ce que nos employés vont pouvoir faire aussi. Fait que c'est pas dans ce modèle-là, mais on l'a considéré de manière séparée là, pour voir justement là, si ça allait être quoi l'impact.
Juste pour comprendre, c'est que le matériel pour ça, c'est un mot je peux m'attendre, c'est pas municipal par rapport à une compagnie normale ou.
Est-ce que tu sais la réponse? La durée typique d'amortissement pour ce matériel-là, ça doit être quand même assez long.
Ben, dans le fond, là, nous, on le finance juste sur 5 ans. Mais on n'a pas besoin. Au niveau de l'amortissement, là, c'est l'âge de la machine. Fait que c'est 15 à 20 ans.
Oui. Okay. En fait, il faut savoir que nos équipements là, sont menés par toujours les mêmes individus. Ils sont très précautionneux d'équipement. Vous n'avez qu'à voir nos équipements, là, nos déneigeuses et tout. C'est impeccable.
Juste pour comprendre,
et l'autre affaire, c'est qu'on a choisi une technologie, premièrement, de type industriel, mais hydrostatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clutch. Donc, ça limite énormément là, de débris mécaniques là, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, là, si on avait à changer les opérateurs. Donc, on a choisi, parce qu'on a regardé trois types d'équipements, et vraiment, on a choisi, premièrement, c'est un produit japonais, là, contrairement à un autre produit coréen. On a regardé aussi la disponibilité des pièces, parce que dans ces tracteurs-là, souvent, quand il manque de pièces, là, puis ça prend des mois à l'avoir, bien, là, tu perds complètement d'utilité. L'autre affaire, c'est que nous, on l'utilise quatre saisons. Contrairement aux déneigeurs que vous voyez passer l'hiver ici, là, l'armada du groupe là, qui viennent, les autres, ils s'en servent beaucoup l'hiver, ils brûlent leurs machines. Tandis que nous, on va le faire graduellement. Alors, plutôt d'attendre là, que le banc de neige devienne glacé et d'eau, dès qu'il va avoir une certaine accumulation, le tracteur va pouvoir passer, élargir la rue. Parce que vous savez, nos rues deviennent très étroites l'hiver, et ça amène un problème de sécurité, parce que les jeunes ou les randonneurs marchent carrément dans la voie de circulation, il y a des places, l'éclairage est minimal. Alors ici, en termes de sécurité, là, c'est une des problématiques qu'on a sur pied des pentes, l'avenue du lac notamment. Donc ça apporte aussi des aspects très, très avantageux pour la sécurité de nos citoyens.
Donc, considérant que la Ville souhaite agir en régie afin de se décharger de plusieurs contrats, considérant que l'embauche d'un employé aux travaux publics justifie ces différentes actions, considérant que l'achat d'un tracteur multifonctionnel permettrait ainsi d'offrir différents services aux citoyens, considérant que le coût des différents contrats pour l'année 2025 était de 22 210 $ et que l'estimé pour l'année 2026 est de 24 653. Considérant que le coût des différents contrats a augmenté en moyenne de plus de 20 % par année depuis 5 ans, considérant que le coût du tracteur et des équipements pour l'année 2026 serait de 28 616 en faisant les différentes tâches en régie interne, considérant que trois soumissionnaires ont déposé une soumission dont le montant avant-taxe sont tracteur articulé trackless, 226 636 $. Tracteur Kubota, 128 300. Et tracteur Tim, qui est un équipement non commercial, à 81 795. Et puis, évidemment, considérant que l'équipe des travaux publics a fait une évaluation des produits qui avaient été proposés, alors, en conséquence, je propose l'adoption de la résolution proposée.
Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Tout est beau, donc adopté à l'unanimité.
Merci.
Merci beaucoup, Alexandre. Donc, au point 6, en urbanisme, 6.1, Karine, est-ce que tu veux nous jaser de ça?
Oui, je peux vous jaser de ça. point 6.1, nomination de deux nouveaux membres sur le comité consultatif d'urbanisme. J'en profite déjà pour remercier la population d'avoir répondu à l'appel de notre appel de candidature qu'on a fait dans un temps assez serré aussi, donc merci. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme doit être composé de membres citoyens conformément au règlement U96-1 relatif au CCU et à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que deux postes de membres résidents sont vacants au sein du CCU, considérant qu'un appel de candidature a été effectué auprès des résidentes et résidents de Lac-de-Lâche conformément aux modalités prévues dans le règlement, considérant que les candidatures reçues ont été analysées conformément aux critères de sélection applicables et aux besoins de composition du CCU, critères de sélection qui ont été mis dans l'appel public, sur la proposition de moi-même, Karine Chalifour, il est résolu que le conseil municipal désigne M. Jean-Louis Provencher et Mme Catherine Tremblay, tous deux résidents de Lac-de-Lâche, à titre de membre du CCU pour le mandat de 2 ans, compté du 20 janvier 2026, 20 janvier 2026, qui est la date de la formation obligatoire des membres du CCU. Le conseil reconduit également le mandat des membres citoyens actuels pour une durée de 2 ans, débutant le 20 janvier 2026, à la suite de ces nominations et reconductions. La composition du CCU est la suivante. Donc, M. André Vignelli, qui est ici présent, Jean-Baptiste Beck aussi, M. Jean-François Giguère, qui n'est pas ici ce soir, Jean-Louis Provencher, Catherine Tremblay, et les deux membres élus qui sont aussi sur le comité, moi-même, Karine Chalifour, conseillère municipale, qui siégera avec vous sur ce comité, et M. Alexandre Pelletier en tant que maire. Donc, le conseil, encore une fois, remercie l'ensemble des citoyens ayant soumis leur candidature pour leur engagement envers la collectivité. J'ajouterai aussi que Catherine a une expérience professionnelle comme technicienne en architecture, puis là, tu me corriges si je le dis, expérience en construction donc et en aménagement du territoire, donc un bel atout là, pour un comité consultatif d'urbanisme. Jean-Louis Provencher, qui lui a une expertise comme scientifique des écosystèmes, donc une expertise dans l'environnement aussi, donc des beaux atouts qui ont fait, et une belle représentativité aussi citoyenne qui ont fait qu'on a choisi... Le conseil a choisi et c'est le même conseil.
Donc, merci, félicitations. Maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait qu'on vote sur cette résolution? Personne, donc adopté à l'unanimité. Au niveau 7, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, Frédéric, je te passe la parole.
7.1. Amendement à la politique de soutien aux activités de loisirs et de culture sur la proposition de la conseillère.
Moi, France.
Il est résolu d'amender la politique de soutien aux activités de loisirs et de culture en vertu des nouvelles dispositions budgétaires en vigueur au 1er janvier 2026. La politique de soutien aux activités de loisirs et de culture 2025 est présentée en annexe 1 du procès-verbal. Puis on va faire une précision pour les 4 jours qui sera revue en février. Le maire, monsieur,
c'est parfait. C'est bon, oui. Donc, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, c'est que dans la politique de loisirs et culture, il y a une section à propos des 40 jours, puis là, c'est pas finalisé les discussions avec Stoneham actuellement, donc on prévoit évidemment régler ça avant que les ouvertures de camp se fassent, donc fin février, on va avoir... les nouveaux termes négociés avec Stoneham, donc on va pouvoir amender à nouveau là, la politique pour cette section-là.
Oui, merci.
Alors,
peux-tu
terminer? Ben, c'est pas terminé, je vais juste la demander le vote, puis on va prendre... Ah bon, okay. Oui, allez-y, votre question.
Ben, c'est par rapport à ce qui est déjà en place, là, l'accès au Marais du Nord, l'accès au parc de la Parc-Cartier, c'est répondu jusqu'en...
Oui, c'est essentiellement la même chose qu'il y avait en 2025. Il n'y a pas vraiment de modification à cette étape-ci. Puis le but, c'est de vous permettre de commencer à justement déposer vos factures et ou autres frais à partir du 1er janvier. Puis après ça, ben là, on vient d'arriver, il y a 56 000 priorités, puis on apprend notre métier. Puis on va avoir l'année pour voir après ça comment on peut bonifier cette offre de service-là. Puis on verra pour l'an prochain. Mais il n'y aura pas de pratique, toute fin chose prête, aucune modification par rapport à ce que vous aviez là, en 2025.
Chez nous. C'est peut-être intéressant de les nommer parce qu'il y en a qui ne connaissent pas.
Vous avez raison. Faudrait sortir la liste, mais...
OK. Alors, l'entente avec la Jacques-Cartier. Mais pour l'ensemble des parcs, la CEPAC, c'était reconduit cet automne. Avec les Marais du Nord, c'est du connu. Avec le Mont Wright, on a aussi... j'ai un blanc, là.
Les bibliothèques.
Les bibliothèques Axtona, mais ceux qui ont des jeunes enfants à Enfants des Neiges, les familles peuvent s'y ajouter.
La bibliothèque de Québec, c'est 50%. Ton enfant aille à Enfants des Neiges pour avoir le droit d'aller à la bibliothèque
d'Enfants
des Neiges.
Comme
adulte, juste
l'enfant.
Non. Puis pas les adultes.
Pas les
adultes. C'est vraiment les enfants.
Non, c'est ça. Même si ça avec les enfants, ils ne sont pas à Enfants des Neiges, ils n'ont pas accès à la bibliothèque.
C'est ça.
De ce tournant. Mais vous avez accès à toutes les bibliothèques de la ville de Québec. Ils vous facturent un abonnement, puis nous, on vous rembourse 50%.
Sauf que là, au niveau des parcs, il y a eu un changement de position par rapport à Stonham. C'est pour ça qu'on veut aller voir avec eux là, ce qu'il y en est. La patinoire réfrigérée, ça reste à 60 $ par famille.
C'est nouveau, 60 $ par famille. L'année dernière, c'était gratuit.
Oui. Ben, c'est ça. Les prix ont monté. Mais quand même, une famille pour 60 $ ils ont accès à ça. Sauf que nous, on en a une belle patinoire ici, là. Puis on est les premiers à l'avoir ouvert dans la grande région grâce à... Il y a aussi des opportunités du côté de Valcartier qui offrent énormément de possibilités. Alors, c'est une chose qu'il faut regarder aussi avec la base militaire Valcartier. Près d'équipements, accès à des plateaux de sport, de la piscine, des cours de natation. C'est nouveau.
Mais ça, pour l'instant, c'est pas...
Il faut aller voir, mais ça fait partie des choses. Pour ça qu'on... On laisse la porte ouverte à des amendements en cours de route s'il y a des opportunités.
C'est ça.
Tout ce qui est rabais, tout ce que vous avez mentionné, on retrouve ça sur le site de la ville?
Dans la politique. Sur le site, oui.
Là, on va la publier. Là, on va donner peut-être une journée ou deux, je ne sais pas combien, là, pour que vous puissiez la publier, la nouvelle.
Demain, elle va être déjà là, parce qu'elle va être en annexe du PV de toute façon aussi. Puis la politique de loisirs 2025 est déjà là. Comme elle n'a pas changé, puis que les grosses modifications, c'est vraiment sur le camp d'été qui ont apporté beaucoup de modifications. Le reste, là, était déjà en place.
Okay. Ben, il y a aussi un autre point qu'on n'a pas mentionné, les abonnements de carte de membre junior, donc pour les enfants à remplir 47. La ville du Lac-de-Lage rembourse 50% du coût de l'abonnement junior et comme toutes les politiques, jusqu'à une concurrence de 100 $ maximum par enfant, par personne. Ça ne dépasse jamais ça. Donc, il y a ça aussi là, comme autre activité qu'on sont en fait.
Dans le fond, c'est que ça ne dépasse pas, mais comme il y a deux saisons, ben, il arrive pas mal flush à vos 100 $.
Oui, c'est ça.
J'ai une question.
Allez-y.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt E47 qui devrait nous offrir à nos enfants ces 100 $ de réduction plutôt que nous-mêmes qui vont tous payer nos taxes et qui ont pour utiliser cet argent autre chose? Donc si E47 était un peu plus efficace.
Là, pour l'instant, la politique elle est ce qu'elle est. Puis comme
elle n'est pas ce qu'elle est. Vous avez un accès privilégié avec M. Zilli?
Non.
Ou avec
Non, c'est pas l'objet de la conversation.
On en parle.
Il n'y a pas de problème.
Mais ce que je veux dire, c'est que là, la mairie pourrait peut-être, vous avez chargé c'est vous qui êtes chargé. Parce qu'on ne sait pas toujours qui.
On va y arriver, M. Magali. C'est déjà un point qu'on va arriver au rôle des conseillers. Puis c'est une question spécifique.
Oui, mais là, c'est justement pourquoi on ne pourrait pas que ce conseiller qui s'occupe du loisir et de tout ça. À y voir
vous avez raison.
Et disent, voilà.
On va travailler là-dessus.
Je crois que c'est une excellente idée de, oui, effectivement, ouvrir ces discussions-là, voilà. Afin de voir c'est quoi les possibilités, surtout si on parle d'une entente là, à venir ou des discussions qui sont en cours. Je garde votre suggestion en appui. Merci.
Parfait. Merci, France.
Plaisir.
Donc, question point 8, donc sécurité et protection contre l'incendie. 8.1, Véronique, je te passe la parole. Est-ce que
oui. Donc,
oui. Voilà.
Je suis là. Donc, mise à jour du plan de sécurité civile, attendu que les municipalités locales ont en vertu de la loi sur la sécurité civile la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Attendu que la ville est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être la source de sinistres. Attendu que le conseil municipal de la ville de Lac-de-Lage reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. attendu que le conseil municipal de la ville de Lac-de-Large s'est doté d'un plan de sécurité civile en 2019. Résolution 2019-059 est réajustée chaque année, lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire, attendu que le plan de sécurité civile et les mesures de préparation aux sinistres qui doivent être mises en place doivent être mises à jour annuellement, attendu que cette préparation et ce plan doivent être maintenus opérationnels et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, attendu que la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que l'élaboration d'un plan de sécurité civile nécessite la participation de plusieurs services de la ville ainsi qu'avec différents partenaires via des ententes de services avec notamment la Croix-Rouge, le service incendie de Stonham, le manoir du Lac-de-Large, etc. Je propose.
Oui.
Je propose.
Ah, oui, tu
vois.
On va donner meilleur.
Soit adopté. Alors, principalement, les modifications qui ont été effectuées à ce plan de sécurité, ce sont les coordonnées des membres du conseil. Le maire est aussi une personne ressource sur le plan de sécurité. Alors, les coordonnées ont été mises à jour, ainsi que les coordonnées des membres du conseil. Voilà ce qui en est
découlé. Merci beaucoup, Yannick. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Non, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Est-ce que je peux jeter un point? On a aussi une section dans le plan de personnes vulnérables, personnes qui vivent seules et autres. On la met à jour, mais ça est très au fait. Mais si jamais là, vous pensez qu'il y a peut-être des gens qu'on devrait ajouter, même s'ils ne sont pas des personnes âgées, mais qui ont peut-être des déficiences qu'on ne connaît pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Parce que quand il arrive des événements, nos gens, on appelle, ou on voit carrément qu'on n'y est pas, dans certains cas, quand il y a des grands froids, tout ça, puis qu'on a un manque d'électricité. Donc, c'est important. Si vous voyez qu'il y a une certaine forme de vulnérabilité, n'hésitez pas à nous le dire. On va l'ajouter dans le plan.
Merci, François. D'accord. Donc, il y a point 9 à l'ordre du jour, il n'y a pas d'affaires nouvelles. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Donc, on a quelques petites informations qu'on voudrait partager à cette étape-ci. François, je ne sais pas si...
Il y aura peut-être... On l'a complètement oublié. On a ouvert un poste. Notre employé, Emma Vallière, a décidé de changer d'emploi. Donc, on a un poste aux travaux publics qui est ouvert. Alors, il est annoncé. Oui, il est annoncé. Alors, c'est les mêmes spécifications qu'on avait demandées. Donc, évidemment, ça prend des gens qui ont de bonnes habiletés au niveau de la mécanique, dans le sens d'être capable de conduire toutes sortes de véhicules. Une classe 3 pour la déneigeuse. Bref, toutes les conditions sont dans l'offre de service. Donc, c'est une situation qui est nouvelle. Là. C'est pour ça que ça fait partie des affaires nouvelles. C'est tout à fait récent.
Bon point. Très, très bon point.
Voici la troisième personne, effectivement.
Il y avait déjà une troisième personne qui était en poste depuis juillet, si je
comprends. Oui, c'est ça, oui.
Puis, cette personne-là a quitté, donc là, ça l'ouvre le poste là, pour quelqu'un. Puis,
j'avais complètement oublié de vous
le
dire.
Alors, bien fait. Ouais. Merci de le rappeler. Il y aura un nouveau tracker aussi pour cette personne-là.
Ça va peut-être attirer plus de clients des candidats.
Ça, j'avais vu, c'est juste mon Facebook.
OK. Donc, au point 10, François, est-ce que tu peux mettre le tableau?
Oui.
Est-ce que tu as eu le temps de...
Oui, je vais aller chercher. Il n'est pas dans le PowerPoint, là, mais...
Donc, juste pour vous donner le contexte, dans le fond, on va ça va répondre à notre question, les rôles et responsabilités de chacun des membres du conseil. Donc, oh boy, je ne sais pas si on peut...
Je vais le zoomer un peu, là.
Je vais zoomer, puis on va descendre rapidement, là.
Où le plus là-dessus?
On prend juste quelques minutes pour vous expliquer un peu le contexte. Puis, c'est bon. OK. Donc, comme vous allez voir, puis pour éviter peut-être les confusions qu'il y a eu dans le passé, ce ne sera pas une répartition qui est linéaire entre un élu versus un ensemble de responsabilités, mais ce sont bien un paquet de responsabilités que le conseil a à assumer, qu'on se répartit entre différents élus. Donc, au niveau de l'urbanisme, là, je ne lirai pas chacun des points. Ce document-là va être disponible, évidemment, sur le site web. Puis, c'est un document qui va être de référence. Mais au niveau de l'urbanisme, donc c'est Karine Chalifaux qui va s'occuper de ça, avec appuyée par Alexandre Morin. Et à l'administration, je l'ai mis les noms des gens de l'administration. Et s'il existe des comités aussi, parce qu'il y a idéalement la possibilité de créer d'autres comités pour aider à appuyer ces choses-là, ces dossiers-là. Donc, c'est M. Drouin au niveau de l'urbanisme et il y a un comité de CCU, comme on vient d'en parler. Au niveau loisirs et culture, ce sera partagé par Frédéric et France sur le conseil. Et évidemment, au niveau de l'administration, supporté par Mélissa et Isabelle. Et il existe un comité des loisirs dont Isabelle, je crois, je ne sais pas s'il y a d'autres gens parce que je n'ai pas encore des visages.
Louis-Philippe, dans le fond, qui fait partie.
Louis-Philippe aussi.
L'administration loisirs.
Fait que ça, donc, c'est ça. Donc, il existe un comité loisirs, là, je l'ai dit dans la plus simple expression, mais ça va collaborer à ce niveau-là. Au niveau des travaux publics et infrastructures, c'est Alexandre Morin. Alexandre s'occupait essentiellement de dossiers qu'il avait après ça dans le précédent conseil. Véronique va le supporter, va l'appuyer à ce niveau-là. François, évidemment. Protection de l'environnement, on a Thibault qui va s'occuper de tout ce qui est environnement. Puis comme je vous dis, les points qui sont là, c'est des exemples de dossiers qui relèvent de cette catégorie-là. C'est pas exhaustif, là, c'est malléable. Puis, bon, François fait partie. Et il y a un comité d'environnement, je dis en démarrage. Historiquement, il y avait deux membres actifs dans le comité d'environnement. Il y avait Thibault et il y avait Marie-Michel. Là, Thibault est rendu membre actif, mais du conseil. Fait qu'on va mettre l'énergie à redémarrer le comité environnement pour aller chercher une collaboration citoyenne. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de notre belle municipalité. À définir, mais oui, on va vouloir que ça soit quelque chose qui puisse nous permettre de faire un peu plus au niveau de l'environnement. Faut voir les comités comme un peu une extension là, de la ville, dans le sens où c'est quelque chose où la part des citoyens peut nous permettre d'avancer, d'en faire plus. Parce que vous comprendrez qu'on a 7-8 employés municipaux. On a une limite de capacité, puis là, vous le voyez ça dans tous les journaux. Là, le gouvernement nous donne plus de responsabilités au niveau des municipalités, puis malheureusement, les budgets ne suivent pas, toujours. Donc, on compte sur l'aide des citoyens, puis je pense que ces comités-là vont permettre d'aller chercher justement un appui à l'aide dans différents dossiers. OK, prochaine page, François.
Y a-t-il une autre page?
Oui, oh, oui. Excusez. Il y en a plein de choses à faire. Une des nouveautés, c'est on a regroupé ça sous expérience citoyenne. Dans le fond, comme vous l'avez vu pendant la campagne électorale, on veut moderniser un peu la façon dont la ville écoute et consulte et travaille avec ses citoyens. Donc, on va vouloir faire des initiatives spécifiques. Puis, Véronique va s'occuper de ça, précisément, en collaboration avec François. Ça va prendre plusieurs formes. Là, on est au début, comme on vous le disait. Tous les moyens pour s'assurer qu'il y ait plus de consultation et de collaboration avec les citoyens. Administration générale, donc tout ce qui est aspect à la gestion financière, suivi des budgets, développement économique régional, communication, donc je vais être la personne qui va chapeauter ces dossiers-là avec François et Mélissa. Relations humaines, donc entente salariale, soutien aux employés, gestion de changement, ça va être fait par Véronique. Qui, rappelons-le, travaille en ressources humaines depuis plus de 20 ans, donc va pouvoir bénéficier de ses compétences à ce niveau-là, en collaboration avec François. Le dossier d'Empire 47 va être piloté par Alexandre Morin et Karine Chalifour, merci, désolé. Donc, ce sont eux qui vont porter le dossier là, à partir de maintenant. La vie communautaire, donc les jardins, les actions d'embarcation, c'est Thibault qui va prendre son rôle-là. J'ai oublié de mettre ton nom. D'accord. Ouais. Donc, c'est bon, on va l'ajouter dans la fête. Désolé. Donc, Fred va effectivement faire partie de ça. Puis, la sécurité publique, ben, c'est Véronique qui va. Bon. Donc, ça, c'est l'ensemble des répartitions. On a collaboré ensemble pour identifier à quoi on avait envie de collaborer, c'était quoi les priorités de la municipalité. Puis, ça va évoluer au cours de notre mandat parce que les projets et les priorités vont évoluer. Fait que c'est un peu une base de référence. Donc, là-dessus, ça complète le point des rôles et des responsabilités. Je ne sais pas si spécifiquement ça répond à vos questions, M. Le Maire. Parfait. Merci.
Le maire n'a pas de responsabilité.
Oui,
j'en ai un.
Ben, je fais beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées là, entre autres siéger à la MRC, donc puis pour, je peux peut-être me prendre une seconde de partager ça. Donc, en tant que maire, on a l'obligation de siéger à la MRC, ce qui est en fait un privilège, je veux dire, c'est une obligation parce que ça nous permet de rencontrer ce qui se passe dans les autres municipalités autour. Puis c'est quand même fascinant, là, le budget de la MRC est trois fois le budget de notre ville. Puis là, après ça, quand tu compares avec les autres municipalités, on est vraiment quand même isolé dans notre réalité. Mais c'est le fun parce qu'on est capable de rencontrer, en tout cas à date, dans mes rencontres, comment ça se fait ailleurs, puis il y a beaucoup de partage qui se fait. Et j'ai aussi accepté de siéger à la SDE, qui est la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Donc, je vais être sur le conseil d'administration. Je suis sur le conseil d'administration. Donc, on va avoir une visibilité sur qu'est-ce qui se passe en termes de subventions, de programmes, d'accompagnement. Donc, si vous avez des entreprises, si vous avez des idées, donc il existe beaucoup de programmes au niveau de la SDE pour avoir des subventions à différents égards. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai accepté de faire aussi. Puis après ça, bien, il va y avoir toutes sortes de responsabilités, la maire qui est la gestion courante des affaires.
Et tu nous appuies dans tous ces...
Et je vous appuie dans tous ces dossiers-là. Donc, je vais collaborer avec tout le monde, évidemment, là, dans l'ensemble des dossiers, au besoin. OK. Donc, bon, dernier point, puis après ça, je vais passer la parole. Un petit suivi sur le dossier d'Empire 47, comme vous avez mentionné, la dernière réunion du conseil. On devait rencontrer et on a rencontré les procureurs, donc qui nous représentent la ville ici dans le dossier. Comme je viens de mentionner, c'est Karine et Alexandre qui vont porter le dossier. Puis la prochaine étape pour nous, c'est qu'ils vont nous présenter un plan en janvier sur comment on va pouvoir évoluer, faire l'avancement de ce dossier-là. Donc à partir de janvier, on devrait être capable de communiquer les prochaines étapes. Mais on a eu la rencontre avec les procureurs la semaine dernière. Donc, on est à jour maintenant sur le dossier, sur ce que ça implique. Parfait. Et c'est
oui,
toi, hein, France?
En effet.
Non, mais toi, oui, c'est l'été France.
Oui, c'est
je veux dire, c'était à toi ce point-là. Voilà,
en effet. Donc, c'est simplement un petit rappel pour la fête de Noël qui aura lieu ce dimanche de 9h à 13h. Donc, c'est une invitation pour venir. Quelques membres du conseil vont faire acte de présence aussi. Donc, c'est de 9h à 13h. Il va y avoir bricolage, animation, pardon. La visite du Père Noël, comme à chaque année, avec les cadeaux pour les personnes qui sont inscrites. Cadeaux, c'est ça, collations, jeux, pièces de théâtre, comme à chaque année, depuis fort longtemps. Donc, Isabelle, Mélissa, Louis, Philippe, tous les bénévoles qui ont travaillé là-dessus, un grand merci.
C'est au manoir.
Au manoir,
c'est
exact.
C'est
dans
au
la
manoir,
salle de bal.
Excusez-moi. Mm-hmm. À la salle de bal, hein, c'est ça, Mélissa?
Ça va être au chaud.
C'est fun,
exact. C'est vrai que c'est fun.
Parfait, merci beaucoup. Puis moi, je terminerai aussi pour vous mentionner que ce week-end, on a suivi la formation de tous les conseillers, on a suivi, et les employés aussi de la ville, tout faisait partie, on a suivi la formation de éthique et déontologie ce week-end qui était dispensée par la Fédération québécoise des municipalités, voilà, la FQM. Donc, on a suivi ça ce week-end, puis je voulais en profiter pour faire un grand merci, encore une fois, pour la disponibilité de tous les employés, donc Mélissa, François, Isabelle qui n'est pas ici, Pierre, tout le monde était ici. Chandler, René, exactement. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous, après la formation, on a fait le tour de toutes les installations concrètes de la ville. Donc c'est le fun de comprendre comment chaque installation fonctionne. Puis Philippe est très passionné par le sujet. On a vraiment appris beaucoup de choses. Puis c'est le fun parce que ça nous permet de mieux comprendre quand on va exercer notre jugement au cours de notre mandat pour prendre des décisions. Bien, là, on a une vue terrain. La grandeur géographique de notre ville nous permet effectivement de faire la visite complète du village dans une journée puis de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment très apprécié. Puis, merci, je le souligne encore parce que je vois beaucoup François tard le soir des fois, puis Mélissa aussi, puis le week-end, puis ça n'arrête pas. Puis comme je disais tout à l'heure, on est une petite équipe, mais on va essayer de s'arranger pour donner le maximum de moyens. Et je voulais vous remercier à ce sujet-là pour votre disponibilité.
Voilà. Merci.
Merci.
Puis j'ajouterai aussi à Alexandre que ça nous dit, bien, on écoutait, hein, on a le sens de Louis, on a vu, puis on a senti aussi. Là. Tous les sens ont été mis à profit pour cette belle visite-là. Il y a des petits points qui sont
en train de faire. Oui, une installation, c'est ça.
Et
cabane grise que vous voulez pouvoir la porte nécessairement.
OK, donc sur ce, je vais prononcer sur la proposition de qui.
Ouais, non? Il y a une période de questions.
T'as absolument raison. Merci. D'accord, on va commencer. C'est les questions qui ont lieu avec ce qui a été mentionné ici d'abord et avant tout. Puis si jamais il nous reste un peu de temps, puis on a le goût, ben moi je suis un peu game de prendre des questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour aussi.
Une question par rapport au. Donc, lancement du dossier 47.
Ouais.
Je pensais que c'était quand même un dossier qui était assez prenant pendant la campagne. Puis c'était juste pour bien comprendre. Donc là, on va avoir un suivi début janvier, ou mi-janvier, enfin, je ne sais plus.
En janvier.
Sur les suites qui sont données.
Oui. En janvier, Alexandre et Karine vont nous présenter un plan. Donc, pour les prochaines étapes pour faire avancer le dossier.
Ça va être fait lors d'un conseil ou ça va être fait lors d'une assemblée?
Non, il devrait avoir. On a un conseil pour comprendre en janvier, c'est le 19 janvier, à moins que je me trompe, mais c'est le 19 janvier, le conseil régulier ordinaire. Donc, on va être en mesure de vous présenter, bien, je dis vous étant Karine et Alexandre, un plan, les prochaines étapes. Puis après ça, l'autre réunion qu'on a, c'est le 26 janvier, ça c'est exclusif au budget. Donc, janvier, c'est les deux rencontres du conseil qui existent. On ne prévoit pas faire une séance spéciale là, par rapport à ça, mais on va le mettre à l'ordre du jour là, du 19 janvier. Merci. J'ai oublié aussi peut-être de commencer par vous nommer, puis après ça, poser votre question. C'est le protocole, là, je vais essayer de m'y habituer.
Jean-Baptiste Sauvé, Victorine Rocher.
Merci.
Alexandre Poupard, 8 pieds des pentes. Je m'excuse déjà d'emblée si ma question... J'espère qu'elle va être claire, mais le dossier de 47 me préoccupe quand même. J'aimerais ça savoir, est-ce que la perception que peut-être que le fait justement d'accorder des conseillers qui vont travailler sur ce dossier-là, le fait justement de prolonger ou en tout cas de mettre sur pause la procédure judiciaire qui était en cours, est-ce que ça n'envoie pas un signal à la population que le nouveau conseil est, je vais dire, plus flexible au niveau de l'application de la réglementation, ou en tout cas qui est plus ouvert à échanger puis essayer de mettre de l'eau dans le vin plutôt que de mettre de l'eau dans le vin justement plutôt que de respecter la réglementation telle qu'elle est et de l'appliquer telle qu'elle est.
Mais à ce moment-ci, je ne sais pas, Alexandre, si tu dois commenter, mais à ce moment-ci, on va travailler sur un plan. C'est le seul engagement qu'on prend à ce moment-ci en termes de conseil. Puis, c'est certain qu'on va toujours valoriser et travailler pour le respect de la réglementation en cours. Ça, c'est certain. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'arriver avec des propositions pour y arriver. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dénouer une impasse. Puis c'est là-dessus que Karine et Alexandre vont travailler pour nous présenter justement le plan et les solutions. Maintenant, le signal que ça envoie, je pense que c'est important de se parler. Puis je pense que c'est un cas où est-ce qu'on va être capable de rétablir des communications. Mais c'est
le moment. Il y a quand même un gel du processus qui est enclenché.
On va communiquer ça à partir de janvier. Je veux dire, c'est la prochaine étape qui est prévue à ce moment-ci.
J'ai une question.
Juste un instant, ça répond à votre question. Alexandre, est-ce que tu voudrais commenter? Tu veux-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Bien, si je peux, oui, effectivement, commenter. Jusqu'à maintenant, les discussions qu'on a eues en conseil vont dans le sens que le but, ce n'est pas d'abandonner, mais c'est de poursuivre pour en venir à une résolution qui est à l'avantage de la ville et de tout le monde.
Oui, c'est
ça. Mais c'est une bonne clarification. Tout le monde qui est assis ici travaille pour un seul objectif, celui de la ville de Lac-de-Large. C'est notre priorité numéro un. Puis on va le faire pour arriver au bénéfice des citoyens, au bénéfice de la ville. Mais l'important, c'est d'arriver à une résolution au final aussi. C'est là-dessus qu'on va travailler. Mais
qui a toujours été l'objectif.
C'est bon? J'ai une question après je reviens à vous. Oui.
Bonsoir, Gennaire.
Bonsoir. Votre nom?
Marie-Michel Parent, j'habite au 124 Amoudémont. Alors, ce soir, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vous encore votre présence parce que lors de la campagne électorale, ça a été vraiment une occasion exceptionnelle pour moi de rencontrer, de parler avec plusieurs de la joie de la joie. Et encore cette semaine, on veut savoir, et c'est très heureuse de voir votre engagement avec Véronique qui va être au niveau des consultations publiques et tout. Ma question, c'était à savoir quand est-ce qu'on se rencontre, quand est-ce qu'on se mobilise. Et je vous mets tant la main, parce que dans le fond, là, des moments de discussion comme on a ce soir, c'est riche. J'aime avoir les idées, puis tout le monde partager, savoir c'est quoi notre réputation, puis à savoir aussi notre engagement à faire avancer tout ça. Alors, y a-t-il quelque chose? Est-ce qu'on peut annoncer une rencontre des Monique, M. Lumage, ou pas?
Pour le moment, il n'y a pas de rencontre de prévue. Là, comme vous comprendrez que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé en poste, c'est pas le 8-9 novembre, on s'est fait...
Élu le 2 novembre.
Oui, élu, mais certifié ou en fait assermenté quelque part le 9.
Depuis, on s'est rencontré à peu près 26 fois.
le soir, pour ceux qui ont des enfants jeunes, ça, c'est ça, c'est l'horaire qui vient avec. Mais, puis évidemment, l'absorption de tous les nouveaux dossiers. Il y a le budget que là, on a la broue dans le tête parce qu'il faut adopter ça pour le mois de janvier. Fait que tout ça étant des priorités qu'on est absorbées, mais je pense que rapidement, ça serait bien. Mais je pense que ça serait une bonne idée aussi que les citoyens qui désirent collaborer, qui désirent participer, qui désirent s'engager, comme je disais tout à l'heure, il y a. Des comités, on peut en créer. Des comités, on peut s'en servir pour dynamiser. Donc, moi, je suis partisan de ça, mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
En adéquation avec ton propos, Alexandre, je pense qu'il y a comme une capacité de rétention et d'absorption en ce moment. Fait qu'on va prendre le temps de bien s'asseoir avec nos dossiers, de bien contrôler la situation. Puis c'est certain qu'un mandat comme celui-là, de favoriser davantage la consultation citoyenne, je suis d'avis aussi. Et si on a besoin de mettre en place un comité pour ce faire, on va bien réfléchir à ça. Il faut d'abord et avant tout, à mon avis, bien structurer cette démarche-là pour s'embarquer dans des choses qu'on est capable de suivre et qu'on a les ressources aussi là, pour bien avancer dans le temps par rapport à ça. Mais c'est certes sur la table à descendre.
Mais aussi, la consultation citoyenne, c'est ce que vous faites ce soir, c'est l'électricité.
Oui.
Je pense que c'est la deuxième fois en fait, que je siège. Je trouve ça super de voir autant de gens présents pour avoir vu des conseils pratiquement vides. Donc, de poser des questions, de challenger le conseil aussi, c'est une consultation citoyenne.
C'est donc, parfait.
C'est ça, la démocratie, en fait. Oui.
Ah, je pense vraiment d'accord. Puis même qu'il ne faut pas le négliger parce que c'est certain que les employés municipaux en ont déjà plein de trucs, et vous-même. Alors, imaginez avoir tous ces gens-là qui vous aident à réfléchir, brainstorming sur c'est quoi vos défis au niveau du financement. Mais est-ce que pour le prochain budget, vous avez des interrogations à savoir à quelle place qu'on pourrait couper? Ben, ça pourrait être des discussions cuisine. Hein? Moi, j'adore la cuisine, c'est plus mal. Pour voir, c'est quoi les idées que les gens, comme ça, au lieu d'avoir que des gens bien contents, ben, est-ce que la population pourrait vous supporter dans certaines.
Absolument, on va toujours avoir l'ouverture d'écouter ce que les citoyens vont proposer. Là, ça, c'est le format, le comment, ben, donnons-nous le temps de mettre ça en place, mais le principe est absolument...
L'objectif, c'est
pas
de vous en mettre plus, hein? Je veux
simplement
que ce soit bien
compris. Ouais. C'est correct, on est là pour répondre au mandat. Merci.
Merci.
Oui, bonsoir. Marie Lemeuve, résident de la rue des Villas. Moi, j'aimerais savoir concernant le plan de sécurité civile, il y avait un accès routier qui était prévu sur le chemin du curé, là, dans le temps. Ça porte encore ce nom-là. Mais j'ai pas suivi le dossier. Je voulais savoir, est-ce que ça a évolué? C'était un accès de secours, là, c'est pas un accès permanent. Est-ce que c'est dans le plan de sécurité civile?
Je ne sais pas si c'est dans le plan.
Ça fait partie. La sortie d'urgence, elle demeure une priorité. D'autant plus qu'on a des citoyens qui habitent aussi sur une rue à Cutsac, qui n'ont aucun service, là, qu'il faudrait au moins qu'ils puissent communiquer avec nous. On a contacté les services incendie pour voir si le fameux chemin du curé était une option potentielle. Il faudrait y investir parce qu'avant, c'était à carrossable, ce chemin-là. On a des problématiques parce que ce chemin-là, il est sur le territoire de la Ville de Québec, sur les propriétés d'immeubles des monts. Alors, déjà, ça amène une difficulté. Il faudrait aller vers l'expropriation, éventuellement.
Excuse-moi.
Mais c'est, en fait, ça a été regardé, mais on est encore là, à regarder d'autres options. C'est il y a peut-être d'autres options aussi.
Il n'y a pas de décision de prise à
d'aucune façon.
On ressent le besoin d'avoir une alternative de deux points de vue, de celui de chemin d'accès pour les situations sécuritaires et aussi de donner une proximité à les citoyens qui ont leur maison à l'aide-l'âge, mais ça prend 35 minutes avant d'ici en voiture. Fait qu'il y a comme une logistique à regarder de ce côté-là, mais à ce moment-ci, il n'y a pas de projet concret, de plan de vie qui a été engagé dans ce sens-là. Mais ça fait partie de ce que j'en comprends, que depuis longtemps des conversations, mais ça va être regardé quand on va avoir la possibilité de le faire. Il y a des aspects financiers.
Est-ce que ça va cheminer?
On sait que ça fait partie des questions, mais ça va cheminer parmi l'ensemble des dossiers. Là. Je sais que François a ça sur sa planche à dessin, là, mais il faut qu'on ait pu les faire un dossier à la fois, là, si vous me permettez l'expression.
C'est notre troisième lien à nous autres.
ça peut être long. Est-ce que c'est une bonne chose?
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la part des citoyens pour relier soit à ce qu'on a discuté ce soir ou autre, comme des questions comme ça? Est-ce que j'ai d'autres questions officiellement? Une fois, deux fois, trois fois. Parfait, merci, j'apprécie votre collaboration. Donc, sur la proposition de, ça me prendrait un proposeur, Thibault.
Oui, je propose.
Pour ce soir, tu proposes la levée de l'Assemblée à 19h32. Donc, on a fait ça en une heure spéciale. Voilà. Puis comme je mentionnais, merci. Puis comme je mentionnais, on va rester disponible. On peut se lever, on ne restera pas en mode formel. On peut partager, discuter 15 minutes, quelque chose comme ça. Si ça te convient, sinon, bonne soirée. Merci.